Donc nous accueillons là Philippe Lafond, autrement dit Corcale. Alors Corcale, c'est quand il fait de la bande dessinée. Philippe Lafond, c'est dans la vie. Et quand tu publieras autre chose que la bande dessinée.
Je sais pas, peut-être Corcale encore.
Encore Corcale, ouais, d'accord. Alors je vais pas très bien présenter ton œuvre en bande dessinée. Je te laisserai le faire après.
Hein. Ouais.
Ce qu'on peut dire, c'est que donc tu écris autre chose que de la bande dessinée aussi, mais qui n'est pas encore publiée pour l'instant.
Oui, pour l'instant, je suis... ça marche le micro.
Ok. Oui, c'est bon. Donc je suis auteur de bande dessinée professionnel, donc. Et effectivement, à côté de ça, j'écris, mais bon, pour l'instant, je ne publie pas, donc je me présente plutôt comme auteur de bande dessinée, même si j'ai un travail d'écriture, ça m'intéresse beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui d'un atelier que j'ai créé il y a 4 ans, qui est un atelier que j'ai intitulé « Bande dessinée et écriture ». Et cet atelier est né il y a maintenant pas mal d'années, dans les années 80, milieu des années 90, où je commençais à la fois mon métier de dessinateur de bande dessinée, et où j'ai connu des ateliers d'écriture pure en tant que participant, et notamment l'atelier de la boutique d'écriture, qui m'a vraiment passionné en tant qu'atelier par rapport à ce qui s'y faisait, et par rapport à une éthique pour moi de l'atelier. Je ne sais pas tout ce qu'était un atelier d'écriture avant, et je suis tombé sur des ateliers qui m'ont absolument passionné dans ce qui permettait d'approcher vraiment des questions pour moi fondamentales de l'art, quelque chose de très, très intéressant. Et c'était resté un peu dans un coin de ma tête, et un jour je me suis dit, si un jour je fais un atelier, enfin, j'ai eu comme ça l'envie. D'abord, je pensais à faire un jour un atelier d'écriture, et puis il y a 4 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir un lieu à Nîmes qu'on me proposait, et j'ai commencé à me lancer dans un atelier de bande dessinée, que j'ai intitulé et d'écriture, en essayant de partir de l'exemple que j'avais de la boutique d'écriture et de ce type d'atelier, essayer de le proposer avec la bande dessinée. Donc avec la difficulté d'avoir de l'image avec du texte, ce qui est assez compliqué, parce qu'en général, un atelier d'écriture a quelque chose finalement d'assez léger. On arrive juste avec un stylo, une feuille de papier, et une consigne est dite, et puis on part dans la consigne, et puis après il y a une lecture qui est faite à la fin, qui est un moment très important, on en a parlé tout à l'heure. Dès qu'il y a de l'image, ça devient plus compliqué, on a une partie, on pourrait dire, plastique, et une partie écriture, et moi je voulais vraiment partir de mon expérience d'auteur, c'est-à-dire la bande dessinée comme une écriture dessinée, c'est-à-dire ce mélange qu'on utilise beaucoup en bande dessinée, notamment quand on est dans un travail de recherche, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre l'écrit et le dessin, c'est toujours la main qui dessine, et on peut très bien aller sur une feuille dans une recherche entre l'écriture manuscrite, le dessin, etc. Ce qui m'avait passionné dans les ateliers d'écriture, dans ceux que j'ai fait, notamment avec Hervé Dekarski, c'était, je parlais d'éthique, c'est-à-dire que l'animateur de l'atelier, c'est d'abord pour moi quelqu'un qui a un travail, qui fait un travail, qui se pose des questions en tant qu'auteur, et qui vient dans l'atelier les mettre en question et utiliser l'atelier pour vraiment travailler aussi des problèmes, enfin ses propres problématiques littéraires ou artistiques. Et je voulais aussi faire un atelier qui puisse, dans lequel je puisse aussi investir une recherche que je fais aussi en bande dessinée, et également la croiser avec une recherche que je fais aussi par rapport à l'écriture. Et je vous présenterai des gaufriers tout à l'heure. Vous verrez, je me suis rendu compte, d'ailleurs en discutant avec Lynn, en préparant un petit peu cette intervention, que j'ai deux types finalement de travail, de consignes. Une partie des consignes est issue de mon travail vraiment d'auteur, c'est-à-dire finalement des gaufriers, vous verrez. Alors gaufrier, c'est ce qu'on appelle, peut-être tu peux commencer à allumer d'ailleurs le truc, un gaufrier en bande dessinée, c'est ça, c'est le support, ça chauffe, bon. C'est le support d'une planche de bande dessinée avec les cases alignées comme ça. Je crois qu'il y en avait un avant en fait, voilà. Ça c'est un gaufrier régulier de bande dessinée. Alors, j'ai essayé de calquer au départ l'idée de l'atelier de bande dessinée sur l'atelier d'écriture. Je voulais démarrer un atelier avec la même simplicité qu'un atelier d'écriture, c'est-à-dire je voulais qu'on ait le même rapport dans un atelier d'écriture qu'on a avec une feuille de papier blanche, je voulais qu'on l'ait en bande dessinée, qu'on arrive directement sur une page. Une page en bande dessinée, en général, il y a des cases, Et j'imaginais pas, après avoir donné ma consigne, je voyais pas des gens partir avec des règles en train de faire des tracer des cases pendant une heure avant de se lancer dans la bande dessinée. Je voulais vraiment qu'il y ait un rapport direct au support et que le support même agisse et fonctionne avec la consigne proposée au groupe. Donc j'ai commencé à créer comme ça des gaufriers, donc ce qu'on appelle des gaufriers, alors soit des gaufriers réguliers comme celui-ci, ou des gaufriers, par exemple, ça c'est un gaufrier aussi régulier mais multiple, un gaufrier qui permet par exemple de faire un travail, si par exemple je donne deux pages comme ça, ça fait presque une centaine de petites cases qui obligent les participants à partir vraiment sur une écriture sans pré-crayonner, une écriture directe en bande dessinée. Il peut y avoir du texte, ça peut être aussi muet, ça va dépendre de la consigne. Ce type de gaufrier très régulier, en général, sont utilisés avec des dessins humoristiques ou des dessins très répétitifs, comme ça. On peut aussi travailler sur des séquences linéaires, comme ça, d'une case à l'autre. L'idée, là, c'est de lâcher prise sur la case et de rentrer dans une écriture. Voilà. Alors, mes ateliers, comme un atelier d'écriture, je pars d'une consigne que j'ai préparée, qui m'intéresse, que j'ai envie de faire travailler. Et donc l'atelier, mon premier atelier, on était deux. J'avais un gamin de 9 ans et une personne de plus de 60 ans. Après, voilà. J'avais vraiment dit atelier tout public. Donc voilà. Et pour moi, le principe aussi, c'est qu'il n'y a pas véritablement des niveaux, des classes ou des consignes qui seraient plus pour tel ou tel âge. Moi, l'idée, c'est que l'atelier doit être vraiment tout public, c'est-à-dire que un adulte comme un enfant. À condition que l'enfant ait les bases du langage, de l'écriture, sinon ça devient un peu difficile, ou voire même de la progression d'une image à l'autre, qui est déjà un petit peu une lecture d'une bande dessinée. Mais l'idée, c'est qu'une même consigne puisse donner, selon ses moyens, selon son âge, selon sa maturité, quelque chose, et que chacun puisse s'engager dans la consigne. Et j'essaie à chaque fois de charger la consigne. Il faut que la consigne m'intéresse pour que je pense que l'atelier soit chargé de quelque chose et d'un certain intérêt. Alors je ne rentrerai pas en détail dans les consignes, il peut y avoir des propositions formelles avec partir d'un même outil chaque fois, par exemple, on peut travailler sur le graphite, on peut travailler sur le lavis, sur des tas de choses précises. J'aime beaucoup travailler sur la couleur directe, le crayon de couleur, pour sortir parfois d'un trait un peu gris, qu'on gomme, qu'on regomme, qu'on une espèce de... Voilà, par exemple, un gaufrier que j'appelle irrégulier, classique en même temps, que je vais utiliser. Je peux d'ailleurs l'utiliser dans ce sens ou dans l'autre, hein, selon qu'on veut commencer par une grande case ou parfois j'impose le sens du gaufrier. Alors, je peux vous donner, par exemple, sur ce gaufrier, je l'ai utilisé, entre autres, directement sur la reprise d'un atelier d'écriture classique qui devait être sur le... Je me souviens de Pérec, où je commençais par un atelier d'écriture sur le « Je me souviens de la plage de Carnon » dans les années 60. Je demandais aux participants de travailler énormément de phrases, comme ça, d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de phrases. Ensuite, de sélectionner les phrases qui pour eux faisaient plus images, et ensuite d'en faire une phrase nominative, de supprimer le « Je me souviens de ». Donc ça donnait la plage de Carnon dans les années 60. Et ensuite, de travailler uniquement, donc d'écrire cette phrase en haut, de la case qu'il choisissait d'illustrer. Mais illustrer ne veut pas dire complètement reprendre ce qui est dit dans le texte, c'est ce qui est intéressant aussi en bande dessinée. Ça veut dire aussi un jeu toujours entre le texte et le dessin. Là, dans ce cas-là, je leur demandais d'utiliser le pastel, un crayon qui peut s'estomper, donner un sentiment un peu de brume, de flou, presque d'image mémorielle comme ça qui apparaît, qui est à moitié effacé, de travailler le fragment, c'est-à-dire que si on parlait de la plage de Carnon, peut-être tout simplement les couleurs ou un morceau de parasol, ou peut-être l'évocation à peine d'une ligne bleue, quelque chose comme ça suffit à montrer que le texte est là pour soutenir l'image, et l'image renchérit quelque chose sur le texte aussi. Donc ça m'intéresse beaucoup de montrer aussi aux personnes qu'il ne faut pas faire de trop de pléonasme entre l'image et le texte, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment un trait vert, comme ça, d'un coup de crayon. J'écris d'un coup le saut d'une grenouille, et bien on voit que c'est le saut d'une grenouille, effectivement. Quoi. On ne cherche pas à autre chose. Alors là, c'est un autre type de gaufrier aussi irrégulier, où là, j'ai souligné, effectivement, il y a une partie qui est un texte pour un texte off. Dans ce cas-là, en général, je demande d'abord de se concentrer uniquement sur le dessin, de ne pas penser... Alors, le plus compliqué, souvent, c'est de demander aux gens de ne pas avoir vraiment des idées. Parce que les idées, c'est ce qui bloque en général. Souvent, j'ai des enfants qui, très vite, c'est de la bande dessinée, alors ils veulent faire une poursuite avec des motos, des bagnoles, des trucs comme ça. Puis dès qu'ils doivent le dessiner, ils se disent « mais je suis nul, je ne sais pas dessiner, etc. » Donc je leur dis toujours, essayez de vous créer un biotope, essayez de dessiner ce que vous avez envie de dessiner, ce que vous savez dessiner aussi au départ. Faites-vous plaisir, allez vers ce qui vous fait envie. Donc je leur demande d'abord de dessiner sans idée, de dessiner, et puis d'une case à l'autre, une narration commence à arriver, en général, d'une manière presque automatique. Et à la fin seulement de l'atelier, et souvent je procède comme ça dans les ateliers, je leur demande en ce moment-là de passer au texte. Et c'est le texte qui va un peu solidifier l'ensemble, qui va permettre de donner du sens parfois à des images ou des premières images qui peut-être n'avaient pas de sens au départ. Voilà, un autre type de gaufrier, beaucoup plus horizontal, où par exemple on peut travailler une consigne sur le lointain, sur un paysage et un événement, plusieurs séquences d'un événement qui se passe, mais de vue de très 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 loin. Ça peut être un incendie au loin, un avion qui explose, ça peut être voilà, quelque chose qui se passe très loin. Alors ici, on peut jouer sur la verticalité, sur deux planches, par exemple en six cases, toute possibilité, on peut travailler sur la chute d'un corps, sur quelque chose qui s'élève dans les airs, au contraire. Donc, je supprime un petit peu l'angoisse de la feuille blanche, puisque déjà, il y a des cases qui donnent une sensation. Et vous verrez, plus j'avance dans mon travail de cases, plus j'arrive vers des cases expérimentales qui finissent par devenir elles-mêmes un support à l'idée, ou en tout cas qui va permettre aux gens de partir vers quelque chose, qui appelle. Peut-être que vous aurez cette sensation en voyant certaines images. Alors, voilà l'exemple d'un... Ça, je l'avais fait avant de faire mon atelier, parce que l'atelier que je fais est un atelier régulier, hebdomadaire. Ça, avant, j'ai fait quelques interventions, que ce soit d'ailleurs une fois à la boutique ou derrière comme ça dans des écoles. Et c'est un des premiers gaufriers que j'ai fait, où là, je mettais un premier texte, une sorte de consigne de départ et une chose à l'arrivée. Deux cases noires, avant le monde, il n'y a rien, et la dernière case, et tout disparaît. Alors souvent, les instituts étaient un peu effrayés, ils disaient, oh là là, c'est un peu craignos. Mais les gamins adorent ça, en fait, parce qu'ils créent immédiatement un monde. Et il se produit des tas de choses, des cosmos, des choses qui commencent à naître, à apparaître. Et certains gamins n'ont pas peur d'étourner la consigne en prenant le Tippex et en se mettant à dessiner dans le noir, pour créer quelque chose aussi dans le noir. Donc après, tout est possible avec la consigne. Mais en tout cas, il y a déjà une structure qui leur permet de partir, et de partir tous ensemble sur le même projet. Et déjà, dans une structure qui souvent, notamment pour les plus jeunes, est souvent plus difficile, c'est de tirer des cases, de faire un truc comme ça. Là, on rentre vraiment... directement dans une écriture, et tout est déjà posé, mais en même temps, on a cette consigne de départ est arrivée très précise, mais à l'intérieur, on a ce dont on parlait beaucoup à l'atelier d'Hervé, c'est-à-dire l'ouvert, quelque chose où tout est possible, même si on part d'une tension, de quelque chose. Là, un autre exemple, je ne sais pas si vous le lisez bien, mais c'est un gaufrier sur lequel, là, un texte intervient au milieu. Et c'est là que j'ai basculé de l'autre côté. Tout le début... je leur demande de dessiner, alors peut-être avec une technique ou pas, ou sans technique imposée précisément, mais je leur demande juste de m'attendre, de nous attendre tous, parce que souvent chacun a son rythme de travail, de ne pas aller plus loin que la phrase écrite. Et lorsque tout l'atelier repart sur la suite du récit, je demande à ce moment-là au droitier de dessiner de la main gauche. Et donc on bascule de l'autre côté du miroir, dans un autre, et voilà, on s'oblige à passer dans autre chose, et il se produit autre chose, voilà. Ensuite, alors là, c'est ce genre de consigne qui est très 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 dirigé finalement, et en même temps, j'essaie de garder une ouverture. C'est un gaufrier où j'ai vraiment créé, comme scénariste, le scénario et le découpage. Vous voyez une première case qui est toute blanche, donc il n'y a pas de texte, il n'y aura pas de texte. Après, il y a mon texte que j'ai écrit, que j'ai lettré. Soudain, j'aperçois des traces dans la neige. Les traces sont si particulières, ce peut-être que lui. De cette troisième case, il ne me reste plus qu'à suivre sa piste. Quatrième case, même si sa piste passe par des endroits impossibles, une case, on peut imaginer ce qu'on veut, cela me prendra le temps qu'il faudra, mais je finirai par le trouver. Voilà, ça c'est un gaufrier qui est en... C'est deux formats A4 qui forment un A3 horizontal. Tiens, on dirait qu'il a perdu quelque chose. Trouver ce qu'il a perdu. C'est encore tout chaud, il doit plus être très loin. Une case sans rien. Bon sang, là-bas. C'est terrible, mais où s'arrêtera-t-il? On ne sait pas ce qui se passe. Je sais qu'il est là, à présent, tout près de moi. Voilà. Donc j'installe là une tension, mais quelque chose qui est complètement ouvert, à part le fait qu'on sait qu'il y a de la neige, que quelqu'un ou quelque chose suit quelqu'un ou quelque chose, on ne sait rien d'autre. Vous verrez que sur un même récit comme celui-là, j'ai amené quelques exemples que je pourrais vous montrer si certains veulent voir des résultats. Là, je montrerai juste des gaufriers vides pour vous expliquer un peu ce que je fais. Mais vous verrez que sur une même histoire comme ça, j'ai un enfant de 11 ans, 12 ans, qui me raconte une partie d'un chasseur qui poursuit un animal, les traces de sang dans la neige, et une dame plus âgée qui me raconte un récit amoureux d'une personne qui suit les traces de son amoureux, qui est en ski, je crois, ou en luge, qui est dans la neige, comme ça, qui poursuit. Donc, on peut vraiment obtenir des récits très différents. Alors ça, c'est une planche assez angoissante, parce que c'est des yeux qui regardent celui qui va dessiner. Donc des fois, ça peut un peu bloquer au début. Alors l'idée de ce gaufrier, donc, c'est simplement de leur demander, à partir de ce gaufrier, de dessiner soit un visage. Parce que vous savez que le cerveau a cette tendance, c'est dès que vous promenez des yeux, comme ça, si vous avez des yeux, j'avais détaché comme ça deux petits yeux, vous les mettez sur une casserole, sur une bouteille, sur un micro... n'importe où, le cerveau voit immédiatement un visage, quoi. Dès qu'on voit deux yeux, on voit un visage. Donc là, je leur demande soit de former un visage, et ensuite on va partir sur un monologue, pour quelqu'un qui pense, un visage en train de penser avec une bulle, il va pouvoir s'exprimer. Mais l'œil peut être chaque fois l'œil de quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir aussi deux profils qui se regardent, qui sont en train de créer un dialogue. Ou bien un personnage qui regarde un autre personnage, ou deux personnages qui se tournent le dos. Voilà, tout est possible, mais ça je vous montrerai, vous verrez mieux sur des résultats de l'atelier. Voilà, là on passe dans les gaufriers déjà plus expérimentaux. Donc là c'est le rond. Je dis quasiment rien sur cet atelier-là, seulement je leur dis, j'impose juste le crayon de couleur, pas de base de gris, noir et blanc, directement dans la couleur. Le noir est là pour à la fois bien séparer les cases qui là sont des cercles. Donc toujours lecture de droite à gauche, hein, comme toujours. Je leur dis de s'occuper uniquement du rond, et à partir de ce rond, de partir avec le crayon de couleur pure, avec tout ce que le rond peut évoquer. Alors dans la bande dessinée, ça peut évoquer des visions à travers une lunette astronomique, une lunette terrestre, ça peut être un microscope, ça peut être certainement fait des planètes, voilà, il peut se passer des scènes dans l'œil de la porte aussi. Et là aussi, à la fin du dessin, quand les dessins sont terminés, un petit texte en bas qui donne du récit, qui va donner aussi du sens, parfois un autre sens à ce qui se passe. Ça, c'est la fente. On commence par le travail sur la verticalité, comme l'observation, une vue subjective à travers une porte ou à travers une armoire. Ça peut être l'amant qui est en train d'observer une scène cachée dans le placard. Ça peut être une meurtrière dans un château. On peut partir, on peut délirer sur un truc de heroic fantasy, des choses comme ça. Une scène, voilà, cachée. Et ensuite, à la fin, encore, sur le petit rectangle horizontal, le texte qui va venir... là-dessus. Ça, c'est le terrier. Alors là, ce qui est peut-être intéressant à montrer, c'est qu'on est à la fois dans une structure de cases, mais de cases qui sont reliées et qui forment finalement une seule écran d'image aussi. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir un personnage qui va partir du haut et dans un sens de lecture et qui va se dérouler des aventures dans chaque pièce jusqu'à une chute dans une espèce de cul-de-sac à la fin. Mais on peut aussi imaginer plein de choses qui se passent simultanément dans une seule même grande image. Donc là, il y a deux lectures possibles pour ce terrier, voilà, et qu'on peut aussi introduire avec des textes comme le terrier de Kafka ou des choses comme ça. J'aime bien aussi utiliser dans mes ateliers des textes littéraires ou évoquer des choses ou parler aussi de peinture. Il m'est arrivé notamment de faire des ateliers de pure copie. Dans la première case, je demande une copie, par exemple au crayon de couleur. J'ai fait ça avec un Edvard Munch ou avec un De Staël. Donc une copie pendant une demi-heure, trois quarts d'heure d'un dessin comme ça. Ensuite, je pose des questions. Qui êtes-vous? Allez-vous? Etc. Sur le lieu de cette peinture, qu'est-ce qui se passe? Et je leur demande de conserver ce style dessiné et de continuer une narration après. Et la réponse qu'ils ont faite aux questions que je leur ai posées après avoir fait cette peinture devient le scénario de leur propre récit. Je m'appelle un tel, je suis machin, devient un récit qui se passe presque dans le tableau, ou en tout cas dans un univers qui a été déterminé par par exemple une peinture de Staël. Donc ici, c'est un peu comme la fente, c'est une fenêtre ouverte. Donc là, de nouveau, on est devant l'ouvert. Là aussi, je vous montrerai toutes les réponses possibles. La consigne leur demande juste de... C'est une fenêtre qui a une vision vers l'extérieur et que c'est toujours le même point de vue. Donc il peut y avoir des changements du point de vue. Il peut se passer des choses. Dehors, les saisons peuvent changer. Il peut y avoir des personnages qui passent. Mais c'est toujours la même fenêtre de la même maison. Voilà, la même vue. Voilà, ça c'est la page déchirée qui peut être prise dans les deux sens. Soit on est angoissé par les chutes de récits, donc on va plutôt commencer un récit et le récit va se désagréger petit à petit. On peut aussi chercher à la fin à travailler un fragment ultime sur la toute dernière case pour essayer malgré tout de conserver le sens du récit, imaginer ce qu'a été la chute même si on ne voit pas tout. Et inversement, on peut aussi le travailler en commençant un récit de manière un peu fragmentaire et en terminant de manière plus claire. Voilà. Voilà un exemple. Et alors ça, c'est un album de famille, enfin une vision très ancienne en fait. Et ça, je l'avais travaillé, j'étais intervenu sur une dizaine d'ateliers dans une maison de retraite. Et avec notamment pas mal de personnes qui étaient Alzheimer et qui étaient quand même en capacité de faire un atelier d'écriture. Et d'ailleurs, j'étais arrivé très naïvement avec une première consigne, c'est sur « Je me souviens ». Mais ils ont toute une mémoire à long terme, et c'était la mémoire certainement la plus intéressante, parce que ce qu'ils vivaient dans leur maison de retraite n'était pas très très gai. Et j'ai eu des récits extraordinaires, j'ai eu des dessinateurs, des dessinatrices aussi incroyables. Donc là, quand vous tombez en tant que participant à l'atelier sur une planche comme ça, vous êtes déjà mis dans une mise en scène en fait, dans quelque chose. La case s'est transformée en possible photographie. Ça peut être l'occasion aussi d'utiliser le sépia, par exemple, la vie. On peut travailler aussi sur le flou de la photo, sur les imperfections, sur des choses comme ça. Donc je demande de travailler ces cases comme des planches, comme des cases d'une bande dessinée. Il y a un médaillon, une photo plus large peut devenir un paysage, mais je ne donne pas de consigne plus stricte que ça. Mais peu à peu, va s'installer une galerie de personnages. Peut-être quelque chose d'autobiographique, peut-être quelque chose de complètement imaginaire, une famille de monstres, tout est possible. Et à la fin seulement, un texte. Il y a déjà des petites annotations sous les photos qui peuvent devenir des noms de personnages, des repères. Et puis à la fin, un texte plus épais qui va condenser un petit peu ce qui s'est passé là. Voilà. Et un récit naît aussi comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le projet idéal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bande dessinée, il n'y a pas de planche, mais c'est quelque chose qui est là, qui fait là pour démarrer la rêverie sur un projet. D'ailleurs, toutes ces planches un peu noires, pour moi, sont vraiment comme des objets un peu de rêverie au départ. Et d'ailleurs, quand on fait une bande dessinée, qu'on soit enfant ou adulte, ça part toujours d'une rêverie, d'une envie de raconter quelque chose. On est bien dans une image, dans quelque chose. Donc là, on s'installe dans à la fois la feuille de cahier et les images. Et là, je leur demande d'être dans un aller-retour sans cesse, selon leur envie, entre l'écriture, noter quelque chose, et tout d'un coup, un dessin qui va venir préciser quelque chose d'autre. Et faire un aller-retour sans cesse et imaginer comme ça, progressivement, un projet d'une bande dessinée idéale. Peut-être qu'ils ne feront jamais, mais au moins qui aura été posé et qui constituera comme ça une forme de pré-synopsis. Voilà. La rêverie, là aussi, sur le carnet, la page de carnet. Donc là, c'est peut-être pas très net, mais c'était un carnet quadrillé. Et là, je leur demande, qui pour moi, même l'essence dont je parlais tout à l'heure de la bande dessinée, c'est-à-dire l'écriture dessinée, je leur dis, vous n'avez ni le droit de ne faire que de l'écriture manuscrite, ni seulement du dessin, mais il faut que les deux apparaissent sur les pages du carnet. À partir de là, vous racontez tout ce que vous voulez, mais ce que je veux, c'est cette écriture qui devient par moments dessin. C'est quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui en bande dessinée, enfin, je pense notamment à certains albums de Johann Sfar, notamment, qui utilisent beaucoup cette technique du dessin direct, parfois mise en couleur directement aussi, avec du texte, et tout d'un coup un dessin au milieu, voilà. Et je recherchais ce rapport-là à l'écriture. Alors on peut être dans le journal secret, le journal imaginaire, on peut être aussi dans une aventure de fiction, sur les pages d'un carnet d'explorateur, etc. Voilà. Donc là aussi ça peut déclencher plein d'idées. Voilà, et puis là c'est... La dernière image que je vous montrerai, c'est une mise en scène en fait d'objet ou d'image. J'appelle ça le tiroir, le fond du tiroir. Ou le tiroir secret. Il y a à la fois une planche de bande dessinée en trois strips. Il y a un morceau de feuille de cahier et une sorte de médaillon dans lequel on peut reproduire, dessiner une photo, une image. Donc, et on peut, comme il y a de l'espace vide autour, comme c'est le fond d'un tiroir, on peut y dessiner des objets aussi. Et donc, la bande dessinée qui va venir aussi s'inscrire là-dedans sera aussi une bande dessinée qui sera aussi un objet qui est dans le tiroir, mais qui peut aussi raconter quelque chose en rapport avec ces objets qui sont un peu comme des indices d'un récit. Voilà. Donc, voilà, à partir de là, moi j'essaie de développer vraiment l'envie de raconter quelque chose. Et voilà. Et j'aime bien un petit peu aussi qu'il y ait peut-être des choses un petit peu, que vous avez senti dans certaines planches, mais peut-être un peu dramatiques, parfois un peu noires, mais je pense que l'art véritablement est inquiétant, quelque part. Je crois qu'il faut mettre les gens en... Même les enfants sentent qu'il y a quelque chose dans l'art qui est intéressant, qu'il y a quelque chose d'un petit peu... qui fait un peu peur parfois, qui est un peu... Les enfants aiment beaucoup les contes, aiment beaucoup... on parlait avec Lynn à midi de nos premières émotions quand on a... appris le dormeur du Val de Rimbaud, enfin, c'est des choses qui frappent. Et quand l'écriture est bonne, je pense qu'elle peut parler à tout le monde. C'est pour ça que moi, dans cet atelier, j'ai vraiment envie de faire un atelier tout public. Je ne pense pas qu'on puisse s'adresser seulement à une sorte de classe d'âge, mais je pense qu'il faut chercher l'intérêt partout, à tous les âges, on a l'intérêt pour véritablement la question de l'art, quoi. Et qu'est-ce qui est en jeu dans l'art? À mon avis, c'est ça qui me paraît important. Voilà.
Merci Philippe. On va peut-être comme t'es allé à oui. toute berzingue, on va peut-être déjà faire un premier échange de questions et puis on pourra compléter.
Mais Michel Arbat viendra détendre l'atmosphère en quelques instants.
Oui.
Oui.
Alors, les techniques, elles viennent nécessairement en cours de consigne, sur des difficultés, par exemple, c'est vrai qu'on a une lecture en bande dessinée, quand on lit un livre, de la gauche vers la droite, donc c'est vrai que lorsqu'un personnage avance, il a plutôt tendance à être tout quand même de la gauche vers la droite, sinon on a l'impression qu'il revient sur ses pas, enfin des choses un peu basiques qu'on peut expliquer à une personne, un adulte ou un enfant d'ailleurs, qui peuvent se poser là, au cas par cas, à ce moment-là. Après, il y a des techniques de dessin, il y a des... C'est vrai qu'au départ, je suis parti sur un atelier très, je dirais, boutique d'écriture, enfin un atelier avec l'envie vraiment d'explorer des choses, de développer comme ça un imaginaire. C'est vrai que l'atelier bande dessinée fait que j'ai souvent une demande aussi technique qui arrive, et que, par exemple, j'ai fait un atelier une fois sur le lettrage pour leur montrer, surtout aux petits, que c'est très très important un lettrage, parce qu'on peut très vite décrocher d'une bande dessinée même intéressante si le lettrage n'est pas très net. Donc je leur ai montré que les grands anciens traçaient même des portées, ils faisaient des lettrages à la plume, donc j'ai même osé faire un cours de plume, ce qui est vraiment, on n'apprend plus ça à l'école, mais donc ils découvraient un petit peu des techniques aussi pour écrire droit, pour apprendre, donc c'est vrai que ça peut se relier à des techniques d'écriture. Et encore récemment, parce que souvent j'ai remarqué que les enfants avaient un peu un complexe, c'est-à-dire moi je ne sais pas dessiner. J'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup avec la tablette numérique, les images partout, les enfants ne réalisent pas, l'image est devenue tellement proche et tellement facile, ils imaginent même qu'un dessinateur dessine comme ça et qu'eux, ils sont nuls à côté. Alors qu'il faut leur expliquer que les images qu'ils ont, qu'on leur donne, ou dans lesquelles on les met le plus souvent obligatoirement à l'école, sont des images qui ont été créées par des créateurs, des gens souvent même qui ont appris à dessiner ou qui ont tout un passé et qu'on ne peut pas dessiner comme ça du premier coup. Et ce qui est intéressant, c'est moi, sur ça que je voudrais dire par rapport aux ateliers d'écriture, c'est que on va faire référence effectivement aux écrivains, à la littérature, mais ça va nous remettre aussi nous dans notre propre expérience personnelle et qu'à chaque fois une expérience individuelle face à l'art. L'art devient beaucoup une consommation aujourd'hui. Je pense que c'est très important de remettre dans ces ateliers chaque personne avec cet enjeu qu'il y a dans l'art, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas dans un exercice d'admiration de Kafka ou de écrivain, mais on se rend compte qu'il a vécu une expérience, il ne savait pas du tout où il allait. Alors aujourd'hui, après, des spécialistes vont vous dire que c'est extraordinaire dans son œuvre, etc. Mais il n'en savait rien, il peut sentir les choses, mais il faut que partir de ce début-là, quoi. Et je pense que l'atelier, à mon avis, il est fait pour ça, pour expérimenter cette chose-là. Faire cette expérience-là. Je crois que si un enfant fait l'expérience véritablement de l'art, qu'il n'est pas seulement dans un jeu d'écriture, dans une occupation, dans une activité, je crois que c'est ce qui est important pour lui, c'est vraiment tout d'un coup, il perçoit quelque chose. Ce qu'il va un jour percevoir sur sur un poème de Rimbaud, sur un... Sur... Il va se dire, là, il y a un truc qui me touche personnellement. Pourtant, le type qui a écrit ça, il y a peut-être quelques siècles, quelques décennies, ça a touché lui personnellement. Mais il ne savait pas qu'il y aurait quelqu'un qui serait peut-être touché personnellement par ça. Et je crois que c'est là qu'il y a un enjeu, je pense, important à faire passer dans un atelier d'art, quoi. Et moi, je fais un atelier de bande dessinée, mais je pense que quel que soit le moyen, la peinture, les arts plastiques, enfin, je veux dire, tout, à mon avis, est à recentrer vers cette problématique-là, pour moi. Voilà.
Oui, je crois qu'on parle tout à l'heure, parce que...
Encore ?
Oui, mais... tu as employé comme mot « recherche », tout à l'heure, oui. Au départ. Oui. La nécessité de la recherche. Mm. Quand je vois le gaufrier, je pense à quelque chose qu'on n'a pas exploré aujourd'hui, mais que je retrouve dans le gaufrier, dans la symbolique, c'est la notion de territoire.
Oui.
Et on est dans un moment où, justement, ce décloisonnement de population en intergénérationnel, en interinstitution, ça doit s'appliquer à du développement territorial. Et, par rapport à mon projet de septembre-octobre, je cherche la personne qui, dans cette démarche de mobilisation de groupes, d'institutions, etc., s'approprie un territoire à partir, justement, de cette dimension d'écriture croisée. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bon.
C'est un appel au rêve sur le territoire, oui. Dans la dynamique interpersonnelle, et en valorisant l'art,
oui.
Comme trait d'union.
Oui. Moi, je pense toujours à ce mot que tu disais beaucoup, Hervé, dans ces ateliers, le mot de l'ouvert. C'est-à-dire, quand on est devant l'écriture, on n'est pas devant l'écriture automatique ou devant n'importe quoi. On sait qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose, mais on laisse le plus longtemps possible cette ouverture sur cette tension avant de pouvoir partir. Et moi, j'ai ça en sorte, ce qui n'est pas évident, parce que c'est vrai que quand il y a l'image, c'est emmerdant, l'image, en fait. Parce que dans l'écriture, on se crée ses propres images. Moi, je viens là avec des images. Quand je suis dans un atelier d'écriture, je pourrais lire des textes. Après, on pourrait évoquer aussi la question qu'il n'y a pas de lecture non plus à la fin. Donc, alors là, voilà, est-ce que pour faire des projections, en général, on affiche. Mais je trouve que ça se disperse un peu. Après, on est dans chacun, regarde, on peut comparer des choses. Mais c'est beaucoup plus compliqué que l'atelier. C'est moins parfait que l'atelier d'écriture, où il y a ce moment un peu sacré, comme ça, où on entend la lecture de l'autre et où on lit. Donc là, ça, c'est absolument passionnant. Voilà. Mais voilà, j'ai essayé de traduire cet ouvert par ces gaufriers. Et puis souvent, je leur parle de l'idée du biotope aussi. C'est mettez-vous quelque chose qui vous plaît, n'essayez pas de rechercher la difficulté d'entrée, puisque le monde que vous allez créer, c'est celui dans lequel vous serez bien, et c'est à partir de là que vous allez construire et bâtir quelque chose de très important, quoi. Mais démarrer quelque chose dans lequel on est bien. Moi, par exemple, je déteste dessiner les voitures, je fais des personnages qui vivent uniquement dans la jungle, qui traversent des animaux, et des trucs comme ça, et même quand j'étais gamin, je n'aimais pas dessiner du tout les voitures, donc je faisais des monstres. Les gens préfèrent dessiner des voitures que des monstres, mais voilà, on choisit son monde, et puis on construit comme ça quelque chose en avançant dans ce plaisir-là. Et puis si un jour on a besoin de dessiner une voiture, on se tanque, on se fait des... Là, par exemple, j'ai fait un atelier récemment, finalement très technique, où, parce que je leur montrais qu'un dessinateur, même un Tardi, un Bilal, n'importe qui, quand il dessine une façade, une rue, ça ne sort pas comme ça. Il a pris des vieilles cartes postales, il a fait de la décale, il a repris des trucs comme ça, il y a une grosse recherche. Là, dernièrement, dans les ateliers, je leur ai fait un atelier sur une voiture, les anciens la connaissaient justement, sur la Dauphine, par exemple. J'ai fait une Dauphine dans toutes les positions possibles, toutes les tailles possibles, avant, derrière, et j'ai fait un gabarit sur du papier calque. J'aurais dit, voilà, maintenant vous allez faire un scène de bande dessinée, mais vous allez cadrer, cette voiture sera plus ou moins dans toutes les cases. Et donc il y a des gamins qui étaient contents parce que pour l'instant, tout à coup, ils dessinent une vraie voiture qui avait l'air de tenir debout et qui, voilà, et c'était pas désespéré. Et ça, c'est vrai que c'est les faire entrer aussi dans le métier, en leur montrant que c'est pas désespérant, qu'on y arrive toujours à dessiner, quoi, au bout d'un moment. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est juste une petite insiste, c'est qu'on parle souvent pour les ateliers d'écriture de poser un cadre métaphorique, mais là, il n'est pas du tout métaphorique. C'est un vrai cadre.
Oui.
Et en même temps, c'est intéressant de voir qu'il suffit, on le sait, mais de le dire, de souligner, d'entourer du vide pour que quelque chose apparaisse. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin, je suis sûre que ce qui se passait dans ma tête quand je voyais les gaufriers, ça se passait dans toutes les têtes, c'est-à-dire que
c'est
une histoire apparaît, quelque chose, des images, des couleurs, simplement parce que quelqu'un a fait un trait et a choisi, bien sûr, les scénarios, mais même quand il n'y a pas de scénario, tout est possible, et on est dans l'ouvert, effectivement, alors qu'on pourrait penser qu'on ferme, au contraire.
C'est l'anti, en fait, thématique, quoi. C'est pas faire, surtout, on a dit sur la thématique, parce que là, surtout, peut-être ça intéresserait certains, certains gamins, puis des adultes, non. Donc, il faut un intérêt tous les âges, quoi, vraiment. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire rapidement là, sur cette histoire d'altérage, justement, très simplement, concrètement, dans ton atelier, c'est quoi l'éventail des âges et la diversité des participants?
Moi, j'ai entre, sur les ateliers, entre 9 et 12 personnes qui viennent très régulièrement depuis 4 ans. En fait, c'est les mêmes qui reviennent. Je pensais que ça tournerait plus, mais finalement... Donc, je vois des gamins qui avaient 10, 11 ans, avoir maintenant 13, 14, 15, donc je les vois grandir. Je les faisais au départ dans un rez-de-chaussée, dans un ancien magasin à Nîmes, et puis après, je les fais chez moi, j'ai un rez-de-chaussée assez grand. Donc, j'ai installé 2 tables, à 12, on est plein. Il y a 2 grandes tables. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que... Alors, les âges, j'ai à peu près moitié-moitié. J'ai un peu plus de jeunes, adolescents, et après, j'ai des adultes. J'ai 3 adultes, 3 personnes qui ont plus de 60 ans, 65 ans, qui sont des gens passionnés par le dessin. Certains ont déjà des très bons niveaux. J'en ai qui font des concours aujourd'hui de bande dessinée dans les festivals. J'en ai qui commencent à raconter des récits autobiographiques en bande dessinée, qui rêvaient de faire la bande dessinée. Donc, qui trouve là, effectivement, comme dans un atelier d'écriture, le démarrage de que permet le groupe dans l'atelier, et ensuite le fait, le côté hebdomadaire de l'atelier qui est important. Donc il y a tout ça. Alors ensuite, j'ai des gamins qui sont des gros lecteurs de bande dessinée, de manga, mais il y a beaucoup, toujours, j'ai remarqué, la ligne franco-belge, la Spirou, etc. Et alors là, j'ai remarqué, il y a des gamins, il y a un côté un peu presque, pourtant je ne suis pas une toon star de la bande dessinée, mais un côté très people de venir chez Corcal. Alors, on sait qu'à 4h, il y aura le thé, souvent il y a des gâteaux, tout comme ça, donc il y a toute une ambiance. Même certains, ils attendent 4h pour le thé, enfin, il y a tout un côté sympa du mercredi. Quoi. Alors c'est quand même, ça dure quand même 3h l'atelier, donc c'est quand même assez long, il faut des moments un petit peu de pause. Mais il y a aussi ce plaisir-là, je pense, de venir dans le lieu. Voilà, ils sont un peu curieux des fois ce que je fais. Et puis savoir qu'ils travaillent sur les gaufriers que j'ai créés, tout ça, voilà, ça leur donne un côté. Et en tout cas, ce qui est très rigolo aussi, c'est que j'ai 2 grandes tables, donc en longueur, où il y a à peu près 5-6 personnes. Et spontanément, ils se sont mis plutôt chacun. Alors maintenant, ils s'appellent d'un côté ceux qui sont nés au XXe siècle, de l'autre côté ceux qui sont nés au XXIe siècle. Moi, je vais d'un siècle à l'autre, comme ça. Ils s'envoient parfois des vannes, comme ça. Bon, j'essaie parfois de calmer les plus jeunes qui s'attaquent un petit peu aux anciens, qui leur paraissent complètement antédiluviens, un truc. Mais il y a des choses qui se recoupent parce que les tout petits, enfin les très jeunes qui lisent encore Spirou, ben les anciens le lisaient aussi, donc il y a des recoupements. Et puis ils voient les anciens qui dessinent très 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 bien. Et alors, des fois ils sont écœurés de les voir dessiner comme ça, mais les anciens disent oui, mais on n'a pas votre âge, nous, voilà. Alors ça, c'est. Voilà. Donc c'est une leçon de vie. Voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, ils reviennent, donc ils sont contents et ça se passe bien. Voilà. Alors là, j'ai pris le même modèle aussi que l'atelier d'écriture, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas l'idée d'un produit fini au départ. J'ai fait une consigne qui est presque un faux produit fini, c'est-à-dire un jour, je leur ai dit, on va faire une fois par mois, on va partir sur un roman graphique, chacun fera un roman graphique. Donc là, vous vous mettez devant l'épaisseur, quelque chose peut-être qu'ils pourraient faire 100, 150, 200 pages, même si vous n'allez pas au bout, mais c'était un peu pour leur faire passer des étapes de la recherche, de la rêverie sur un projet, de l'écriture, avant de se jeter comme ça sur un projet. Alors ça parle beaucoup aux anciens, à qui ça a donné effectivement, qui continuent le travail après chez eux, qui me montrent les étapes, etc. Les gamins, dès qu'ils sont dans la pleine liberté, ils ont beaucoup plus de mal en fait, dès qu'il n'y a plus le cadre. Alors souvent, à chaque fois qu'on fait cet atelier en roman graphique, ils partent encore sur autre chose. Mais ça, je crois que c'est un peu inhérent à l'âge. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je commençais par la reliure, enfin j'accrochais plein de feuilles de papier machine, je faisais un gros truc bien épais, après je faisais la couverture, la page de garde, je faisais 2-3 cases, et puis je passais à autre chose. Et puis, voilà. Donc je crois que c'est ça.
Juste, je pensais une anecdote pendant que j'ai parlé du côté un peu magique, c'est les gaufriers Café Corcal. Ça me rappelait quand on faisait des ateliers avec les petits, la paillade, des très petits, des 6-7 ans, et il y en avait souvent qui empruntaient le stylo d'Hervé. Parce que quand ils étaient en difficulté dans l'écriture, quand ils pouvaient emprunter le stylo de l'écrivain, tout de suite ça allait vachement mieux, quoi. Ils arrivaient mieux à écrire. Donc je pense que tu vois, tes gaufriers aussi, il y a forcément un peu de puissance magique dedans.
J'ai chauffé la salle pour
Suar Batz. Alors peut-être vous dire que s'il y en a qui veulent voir ce que ça donne, les gaufriers, Philippe a amené dans son carton des réalisations diverses et variées. Hein, et donc vous pouvez passer de la structure abstraite à l'incarnation concrète dans la diversité des participants.